En ce dimanche de Pentecôte, eh bien, nous lirons le récit de la fête de Pentecôte tel que Luc nous le donne à lire dans le livre des Actes au chapitre 2, les versets 1 à 11. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu, les disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel étaient à Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Quelle conjonction étonnante! Mais quelle belle conjonction que ce récit de Pentecôte du livre des Actes, lu, entendu, alors que depuis quelques jours à peine, couvre-feu repoussé, commerce et terrasses ouvertes, invite à sortir et offre la possibilité de parler, de se parler, parler à des connaissances, peut-être parler à des inconnus. Et ainsi, entendre aussi parler de multiples langues. Même si les touristes ne sont pas revenus à Paris, une grande diversité de langues est quand même à entendre dans ces rues. Alors certes, en ce jour de Pentecôte, nous ne pensons pas tous à devenir polyglottes. Mais après un an de relations humaines rendues plus difficiles par le confinement, les distances, les différentes mesures sanitaires, nous voici de nouveau avec revenue en nous cette légèreté d'être et d'être avec d'autres en pouvant se rencontrer, se parler et tâcher de se comprendre. Ce n'est pas le tout de se parler. Une expérience est souvent proposée et reproduite à l'école biblique et en catéchisme dans diverses paroisses, quand il s'agit de parler de l'Esprit Saint aux enfants. Il s'agit de leur demander d'expirer profondément, de vider leurs poumons autant que possible, et ensuite d'essayer de prononcer un ou deux mots. Et ce n'est pas possible. Pas d'air dans les poumons, pas de souffle, pas de parole. Et c'est ainsi plus facile de faire comprendre aux enfants que l'esprit, littéralement le souffle, traduction du mot grec pneuma, celui qui a donné pneumatique par exemple, gonflé d'air, eh bien l'esprit, le souffle, est ce qui permet la communication. Il est puissance et énergie de communication d'une parole, puisque telle est la manière biblique d'exprimer ce qui, de Dieu, vient nous toucher, saisir, transformer l'être humain, sa parole. Et l'association du souffle et de la parole est particulièrement mise en évidence dans ce récit du livre des Actes. L'esprit, c'est vrai, y est doublement symbolisé par la mention du vent violent et des langues de feu se posant sur chacun des disciples. Advenu, qui pousse les disciples à sortir du lieu où ils se tournaient pour parler à la foule qui s'est rassemblée en entendant ce grand bruit. Le vent dans ce texte de Luc, c'est en grec pnoé. C'est un mot de la même famille que pneuma, construit tous les deux sur le même verbe signifiant souffler et respirer. Et l'image de l'Esprit de Dieu comme un vent du vent est familière déjà aux lecteurs de la Bible hébraïque. C'est ce souffle, vent, qui planait sur la surface des eaux au commencement du livre de la Genèse. En hébreu, c'est ce mot vent, ruach, qui désigne l'Esprit de Dieu. C'est ce souffle, vent, qui mobilise et fait parler les prophètes. C'est ce souffle, vent, qui passe sur les ossements desséchés pour reconstituer un peuple dans la grande vision du prophète Ézéchiel. C'est ce souffle, vent, qui est promis dans le livre du prophète Joël, que cite l'apôtre Pierre qui va s'adresser à la foule juste à la suite du récit que nous avons lu, et je lis cette citation de Joël. C'est l'Éternel qui parle. « Après cela, je répandrai mon souffle sur tous. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des rêves, vos jeunes gens des visions. Oui, sur mes serviteurs, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils parleront en prophètes. » Dans les évangiles, Jésus est entièrement inspiré par l'esprit souffle, symbolisé aussi par cette colombe descendant sur lui le jour de son baptême. Et c'est cet esprit qu'il promet à ses disciples, que ce soit dans l'évangile de Jean ou dans le récit de l'Ascension, de l'évangile de Luc, repris au début du livre des Actes. L'esprit souffle, et cette force vitale qui met les disciples en mouvement pour le témoignage de l'évangile et qui les entraîne à parler, à exprimer les œuvres grandioses de Dieu, les merveilles de Dieu, écrit Luc. C'est-à-dire l'œuvre belle et bonne de création, de résurrection pour chacun et pour tous. Et je vous propose ce matin de nous arrêter sur trois points particuliers mis en avant par le récit de Luc au sujet de la parole. À Jérusalem, dans le judaïsme, la fête de Pentecôte représente la fête du don de la loi, mais elle représente aussi celle des moissons, la fête des récoltes, grâce auxquelles la vie du peuple est assurée au moins pendant un an. Cette fête recèle en cela une véritable dimension spirituelle de remerciement à Dieu pour la vie et même la vie sauvée. Car les récoltes éloignent le spectre et la peur du manque de nourriture, la peur de la famine avec son cortège de misère, de souffrance, de mort. La fête de Pentecôte, la Pentecôte, recèle ainsi une puissance d'encouragement, de courage pour vivre. Et lorsque Luc écrit l'Évangile et les Actes, autour des années 80, semble-t-il, le temple de Jérusalem a été détruit. Et les rassemblements pour les grandes fêtes, les rassemblements des Juifs venus des diverses contrées de l'Empire romain, souvent où ils sont établis, ces grands rassemblements ne sont plus d'actualité. Mais ce récit raffermit le cœur des chrétiens eux-mêmes en situation précaire. Il rappelle que le don de l'Esprit représente une source de courage dans l'adversité, dans les épreuves à supporter et à traverser. Alors quand les disciples parlent, ils peuvent parler contre la peur. Contre la peur de la famine et du manque des moyens de vivre. Contre la peur de la dispersion et de la persécution. Ils peuvent parler contre la peur d'une existence insensée. Contre la peur des oppressions et des humiliations. Contre la peur des classements et des déclassements. Contre la peur des intégrismes et des fanatiques, contre la peur de l'avenir. Les paroles des disciples ayant reçu cet esprit sont des paroles qui font vivre, des mots qui font vivre, comme l'écrivait le poète Éluard. Parce que le Dieu qui donne son esprit est un Dieu qui ne parle pas par catastrophe ou par calamité. Le langage de Dieu ne passe pas par la menace ni par la peur. Dieu qui donne son esprit est Dieu présent dans nos esprits pour le salut et pour la bénédiction. Le récit de Luc fait comprendre encore autre chose. Avec l'image de ces langues de feu qui se posent sur chacun des disciples rassemblés. Dans la plupart des représentations, comme celle proposée dans l'amitié du mois de mai, ces langues de feu sont représentées par de petites flammes, une sur la tête de chaque disciple. Le symbole du feu est présent dans la Bible hébraïque lorsqu'il s'agit de mettre en scène une théophanie, une manifestation de Dieu. Par exemple, la colonne de feu qui précède la marche du peuple d'Israël dans le désert après la sortie d'Égypte, la nuit. Ou alors le char de feu enlevant le prophète Élie. Ou encore, nous pouvons lire ceci dans le livre du prophète Jérémie. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Déclaration du Seigneur. Et le feu comme symbole de la parole de Dieu est repris par Luc dans le récit des disciples sur le chemin d'Emmaüs, les deux hommes qui se disent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Le don de l'Esprit à chaque disciple. Une langue de feu sur chacun, individuellement, signifie que Dieu parle à chacun, personnellement. Et Dieu parle à chacun dans sa propre langue, avec sa culture, ses représentations, son imaginaire, ses héritages, ses ombres et ses lumières, son histoire et même ses émotions. Dieu parle à chacun dans la singularité de l'être, avec la composition, les articulations de tout ce qui le constitue. Et en cela, cette parole n'est pas une parole générale, mais toujours une parole personnelle, adressée, et qui va s'incarner d'une manière unique. Et toutes ces manières uniques parlent de diversité. Hier, samedi, lors de la messe à Notre-Dame d'Espérance, où nous étions quelques-uns, organisée par les deux groupes Église verte de nos deux paroisses, il était question, en ce temps de Pentecôte, de la biodiversité, parce qu'hier, c'était la journée internationale de la biodiversité. Eh bien, aujourd'hui, la diversité que je voudrais souligner et que le texte de l'Évangile, de Livre des Actes nous invite à souligner, c'est la diversité des manières dont les croyants sont rejoints et transformés par le souffle de l'Esprit. La diversité des chemins qu'ils peuvent emprunter dans cette nouvelle orientation à partir de là où ils sont. Ce qui nous touche et nous saisit, la parole. Ce qui monte en nous et nous anime, l'Esprit, le souffle, ne nous uniformise pas. Cela ne nous réduit pas en un seul modèle. Au contraire, parole et esprit nous déploient dans une grande diversité, sans que cette diversité puisse être hiérarchisée, sans que les uns ou les autres puissent être disqualifiés, sans qu'une norme puisse prévoir ou contrôler la justesse de tel chemin ou de tel autre. Et cette diversité, étonnante, surprenante, parfois désarçonnante. Cette diversité est un effet de Pentecôte, du don de l'Esprit de Dieu qui vient en nos esprits comme source intérieure de la parole de Dieu. Alors, forcément, en conséquence, et c'est le troisième point, les paroles des disciples ne sont pas non plus toutes les mêmes, elles ne sont pas uniformes. Ces merveilles de Dieu que chacun, parthe, mède, élamite, crétois ou arabe, entend dans sa langue maternelle, c'est-à-dire la langue qui parle à son cœur, la langue qui est la langue de son existence, ces merveilles de Dieu, ce ne sont pas les mêmes. La diversité des langues est aussi une façon de dire la diversité des expressions. Les disciples saisis par l'esprit ne disent pas tous la même chose. L'un parlera de la vie sauvée, du non-sens et du désespoir. Un autre affirmera la dignité restaurée et reconnue. Un autre encore la libération de la culpabilité ou d'un n'importe quel système d'oppression. Un autre encore célébrera l'amour inconditionnel. Et il n'y a pas à chercher ce qu'il faut dire auprès d'un magistère, quel qu'il soit. Chacun est capable, par l'esprit, de parler, puisqu'en lui, l'esprit fait passer, couler, résonner la parole divine, parole créatrice, parole de vie. Chacun peut dire à sa manière sa relation à Dieu. Chacun rend compte de sa lecture des Écritures. Chacun peut tracer, retracer son chemin de spiritualité. Chacun exprime ce qu'il comprend de Dieu. Et ces paroles, dans leur diversité existentielle, spirituelle et théologique, aident ceux qui les écoutent. Cela les aide à comprendre qu'eux aussi, tels qu'ils sont et d'où qu'ils viennent, ils sont au bénéfice de ce souffle et de cette parole. Il arrive parfois que la diversité de Pentecôte, la diversité des effets de l'esprit et de la parole entraînant celle des paroles des disciples, cette diversité soit incompréhensible et même inacceptable. Cela peut arriver dans l'orgueil de penser détenir la vérité au sujet de la foi, de la vie spirituelle, de la théologie, et dans la peur d'être fragilisé par la différence et la pluralité. Et l'association de l'orgueil et de la peur produit des réactions de rejet, de jugement, de condamnation de ceux qui croient différemment, pensent différemment, parlent différemment, vivent différemment. Toute l'histoire de l'Église et de chacune des Églises en présente les marques. Et chaque croyant, dans son histoire, y est confronté, et même doit affronter cette question de la diversité des effets de l'esprit, de la diversité des paroles des croyants. Et si je dis affronter, c'est qu'il s'agit parfois d'un rude combat, non pas contre quelqu'un d'autre, mais contre soi, contre l'orgueil et la peur, contre la propension à penser qu'en matière de foi comme ailleurs, il s'agit avant tout d'avoir raison. Un combat contre les plis intérieurs et bien abandonnés, contre les raideurs internes héritées de l'éducation ou de la culture façonnées par la personnalité. Mais l'esprit souffle là également et il déplace les évidences et les attentes. Il pousse au mouvement de la pensée, à la dynamique des relations, au débat et même à la dispute théologique. Il fait apparaître et prendre conscience de la diversité des interprétations des textes bibliques. Il ouvre au dialogue et à son approfondissement pour chacun, pour tous ceux qui dialoguent de leur propre pensée, de leur propre foi. Oui, Pentecôte est la fête de la diversité heureuse et bénie. Et l'Esprit de Dieu qui y est célébré est un esprit de communion. Communion par le don, par la parole et l'Esprit donné et non par leurs effets. Communion en celui qui donne et non en ceux qui reçoivent. La communion s'enracine au-delà de ce que nous expérimentons, pensons, croyons, incarnons, de même que Dieu est au-delà de ce que nous disons de lui. Et c'est ainsi que nous pouvons être véritablement rassemblés, sans exiger que tous soient plus ou moins semblables. C'est ainsi que nous pouvons éprouver de la curiosité et de la joie en présence des autres, de ceux qui ne sont pas comme nous. l'Église de Pentecôte est l'Église de l'esprit de reconnaissance. Et reconnaissance dans les trois sens du terme même. La découverte, l'exploration d'une pensée, d'une théologie, d'une spiritualité différente. La connaissance mutuelle entre les personnes. L'identification de l'autre qui ne doit surtout pas devenir un enfermement d'autrui. Et puis, la gratitude pour la parole de création et de résurrection adressée à chacun de nous et pour la communion qui nous réunit. La gratitude pour la diversité et la liberté que la diversité suppose et implique. La gratitude pour la confiance qui toujours, malgré tout, nous est donné par Dieu. Amen.